C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Heinrich Böll, 1917-1985, allemand, écrivain, politique, catholique de gauche, hétérosexuel. Œuvre L'honneur perdu de Katharina Blum, même titre en allemand, Die verlorene Ehre der Katharina Blum, 1974, traduit en français en 1975 par Solange et Georges de Lalaine. Personnage Katharina Blum, adaptation au cinéma par Volker Schlendorf et Margarete von Trotta, film du même titre en 1976. Personnage de Katharina Blum interprété par Angela Winkler. Heinrich Böll écrivait des romans qui avaient de bons titres. Un titre est une poignée et mieux vaut qu'elle soit solide. Comment ne pas retenir les excellents titres de Portrait de groupe avec dame, de Le destin d'une tasse sans anse ou L'honneur perdu de Katharina Blum. Sous les titres, il y avait des livres honnêtes, qu'on dirait sans littérature si le mot littérature voulait dire ornement et tromperie, mais c'est précisément le contraire qu'elle est. Disons qu'il voulait peut-être se débarrasser des instruments du charme, et ses romans sont sans charme au sens où ils ne tentent pas de charmer le lecteur, ils veulent faire comprendre. C'est leur pesanteur parfois. Böll manque d'ellipse, il est vrai qu'il n'arrive rien d'elliptique à Katharina Blum ou à la dame du groupe. Notre façon de parler influe probablement sur la pensée que nous avons de nos personnages. Katharina Blum, c'est une femme de Cologne accusée en 1974 par les autorités policières et judiciaires d'avoir hébergé un voleur soupçonné d'anarchisme, de terrorisme, dont ne sait quoi de précis au juste. La mécanique du soupçon est très bien montrée dans ce roman, comme d'ailleurs dans l'excellent « Du côté des infidèles » de Leonardo Sciascia qui le fait du côté de la hiérarchie catholique. L'emballement du soupçon, obligé de s'emballer pour se trouver des raisons, lui qui n'en a pas, n'étant qu'une passion envieuse. Pour Katharina Blum en plus, les médias s'en mêlent. Un journal de l'espèce qu'on appelait alors à sensation, la calomnie. Elle assassine le journaliste responsable, on l'apprend dès le début du roman, qui consiste en une enquête policière et judiciaire, rapportée d'une manière lente et scrupuleuse par un narrateur impersonnel. C'est un roman qui me fait beaucoup penser au nu descendant un escalier de Marcel Duchamp. L'ami de William Butler Yeats, Lady Gregory, a eu cette parole immortelle à propos des journalistes. Elle a dit « Quand je leur dis cochon, ça devient saucisse. » Quand je leur dis cochon, ça devient saucisse. Même quand ça n'est pas malveillant, par simple besoin de mettre sa marque, d'exister, comme un chat urine dans une pièce qui n'est pas la sienne ou un enfant met du feutre sur un tableau qu'il aime bien, il arrive que certains journalistes déforment ce que vous leur dites. Cette torsion du langage, qui est la quintessence de la mauvaise foi, est une des pires violences qui puisse être faite à un individu. Comment une femme sans relation, simple gouvernante chez un avocat qui ne connaît personne dans les médias et n'a même pas réfléchi à leur fonctionnement, peut-elle répondre quand elle est agressée par eux? Pour parler de Katharina Blum, je reçois Oriane Jeancourt, romancière et directrice adjointe de la rédaction du magazine Transfuge. Oriane Jeancourt-Galignani, pour commencer, à quoi ressemble physiquement Katharina Blum?
Alors, dans le roman, il nous est très vite dit qu'elle est belle. Et on le comprend très bien puisque tous les hommes dans le livre vont être attirés par elle et vont lui faire des avances. Et d'ailleurs, on le comprend très vite, c'est par essence la proie du patriarcat. C'est aussi ça que nous dit Heinrich Böll, puisque tous les hommes ont ce désir qui converge vers elle. Et d'ailleurs, sa première apparition, elle n'est pas habillée, elle est presque nue, puisqu'elle est dans un peignoir, il est dit dans un peignoir avec des petites fleurs vertes, je crois. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'apparaît pour la première fois Angela Winkler dans le film. Eh bien, elle apparaît nue sous son peignoir. Donc, c'est un corps nu sous un peignoir, c'est une proie. Voilà, c'est très clair.
C'est une femme jeune, elle a 27 ans.
Ah oui, elle a 27 ans, vous l'avez dit, elle vient d'un tout petit milieu, elle a fait les métiers les plus simples jusqu'à ce métier de gouvernante, comme on dit en français, pour ce couple qui va peu à peu jouer un rôle dans le roman, qui est un couple d'avocats de gauche, enfin de gauche jusqu'à un certain point. C'est aussi ce que montre Heinrich Böll.
Il fait une chose qu'on fait pas toujours dans les romans qui sont parfois trop idéalistes. Böll, c'est qu'il parle d'argent. Il dit très précisément combien elle gagne, qu'elle a emprunté de l'argent. Et ça, je trouve ça important.
Oui, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce qu'il est. Il parle avec la langue de l'ennemi. Vous l'avez dit, ce n'est pas un styliste, il n'a jamais été reconnu pour ça, mais dans ce livre particulièrement, puisque c'est un livre qui est né d'une colère, la colère contre la presse, contre ce qu'on appelle en Allemagne la Boulevardpresse, c'est-à-dire vraiment la presse à scandale, et particulièrement contre un journal qui, dans les années 70, c'est vrai, étayait les pires horreurs, qui était le Bild.
Oui, on va y revenir.
Et donc il utilise la langue du Bild. Et le Bild, comme toute la presse à scandale, a deux obsessions, l'argent et le sexe. Donc, il va faire de même, il va parler beaucoup d'argent et de sexe.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive à peu près précisément? J'ai dit l'argument très simplement, qu'est-ce qui arrive à Katharina Blum?
Eh bien, il arrive ce qui pourrait arriver à un personnage de Kafka, c'est-à-dire qu'elle se lève un matin et tout d'un coup, il y a la police qui débarque chez elle de manière extrêmement violente et qui l'arrête, qui va l'emmener au commissariat pour un interrogatoire auquel elle va plus ou moins rien comprendre. Et puis ensuite, la presse à scandale, qui double la police tout au long du livre, eh bien, va à son tour la pourchasser, puisqu'il lui est reproché d'avoir passé la nuit avec un homme qu'elle a rencontré la veille, qui s'appelle Ludwig, qui en l'occurrence, et c'est vrai, un meurtrier proche de l'extrême gauche.
Mais est-ce qu'on est sûr de ça dans le roman? Est-ce qu'il est vraiment...
Est-ce qu'il est coupable? On ne sait pas. On sait qu'il est pourchassé.
Voilà, il est pourchassé. Mmh. Et c'est donc là le soupçon qui se met en place.
Mmh. Oui, le soupçon, même la cabale, qui se met en place et qui ne va pas la lâcher. Et puis ensuite, comme le dit d'ailleurs le sous-titre du roman, c'est-à-dire L'honneur perdu de Katharina Blum, ou comme d'où naît la violence et jusqu'où est-ce qu'elle conduit. Je fais une traduction un peu rapide, mais c'est ça. Et donc ça va être l'histoire de la violence, le mécanisme de la violence sur 5 jours. C'est extrêmement précis, extrêmement resserré. C'est resserré comme un roman, mais c'est resserré comme un pamphlet aussi. C'est comme ça que Beul l'a voulu. Et donc, peu à peu, il va y avoir des morts en série. Puisque là, je ne sais pas si on a le droit de dire la fin, mais il n'y a pas non plus un suspense. Mais la mère de Katharina Blum va mourir parce qu'elle est pourchassée par un journaliste. Et puis ensuite, c'est Katharina Blum elle-même qui va tuer le journaliste qui la harcèle.
Alors, elle ressent, c'est dit dès le début par le narrateur, 3 choses, l'amertume, la honte et la fureur. Alors, l'amertume, on comprend, puisqu'elle est injustement soupçonnée ou exagérément soupçonnée, que la presse se met sur elle et on va dire comment la calomnie. On comprend la fureur, mais pourquoi la honte?
Mais parce que justement, tout ça est une question de honte et d'honneur. C'est très étonnant ce qu'a fait Heinrich Böll dans ce livre, c'est-à-dire, et c'est annoncé dans le titre, il dit « l'honneur perdu ». Il parlerait comme un homme de son temps, du XXe siècle, normalement il devrait dire « la réputation perdue ». Et là il dit « l'honneur », c'est-à-dire que Katharina Blum est une femme d'une autre époque, est une femme qui a un honneur extrêmement fort, et donc elle va se sentir souillée par ce qu'on lui fait. Souillée par ce harcèlement, comme on dirait aujourd'hui, ce harcèlement que fait la presse contre elle. Et donc, elle va avoir ce sentiment de honte qui est celui des grands personnages tragiques.
Hein. Alors, ce qui est intéressant dans le roman, c'est que Böll ne se limite pas à la presse, à la justice et à la police, mais il y a aussi, ce qui est peut-être pire encore, les bonnes gens. Mmh. Et les bonnes gens qui se mettent à parler à la presse. Et l'une de ces bonnes gens est son ancien mari, divorcé.
Qui est un homme affreux qu'elle a porté, qu'elle a abandonné. Et son ancien mari va dire qu'en effet, si elle l'a quitté, c'est non pas parce qu'il était violent, c'est non pas parce qu'il était, mais bien sûr parce qu'elle avait cette obsession sexuelle. Parce que c'est ça qu'on va sans cesse lancer à la figure de Katharina Blum. C'est son obsession sexuelle, en fait. D'ailleurs, il y a un passage extrêmement fort dans le livre qui est extrêmement bien mis en scène aussi dans le film de Schlendorf et Trottard. À un moment, il y a un commissaire qui la regarde et qui lui dit « Est-ce que vous avez baisé avec lui ?» Il utilise ce mot-là. Et donc, le mari, ça va être pareil. Il va dire, finalement, je ne savais pas, mais c'était une vamp sexuelle et c'est pour ça que je n'ai pas pu répondre
à ses
attentes.
Mais le mari est plus pervers que ça aussi. Mmh. C'est-à-dire que le mari l'accuse, et c'est intéressant par rapport à l'époque et au lieu où Böll écrit, il l'accuse d'anticléricalisme et de socialisme. Et ça, c'est intéressant car il faut qu'on dise, Oriane Jeancourt, que ce livre se passe dans un lieu qui n'existe plus. C'est l'Allemagne de l'Ouest.
Absolument. Donc, ce livre est écrit en 1974. Heinrich Böll, on pourrait le croire comme ça rapidement, est au plus haut puisqu'il a eu le prix Nobel en 72. Mais en vérité, il est pris dans un scandale qui le dépasse puisque son fils, 2 ans plus tôt, a été harcelé par la presse et par la police parce qu'il aurait soi-disant hébergé des gens d'extrême gauche. On est dans une chasse aux sorcières de l'extrême gauche, puisque c'est l'époque de la Rote Fraktion, et donc on a l'impression
de l'armée rouge, de la fraction armée rouge.
Fraction armée rouge, et donc on a l'impression que les communistes ont pris possession et terrorisent l'Allemagne de l'Ouest. Et donc voilà, et donc le fils de Heinrich Böll, mais vraiment quelques mois après qu'il ait reçu le prix Nobel, a été comme ça harcelé et a été traîné dans la boue par le Bild, qui a dit voilà, non seulement c'est un activiste extrême gauche, mais c'est lui-même un écrivain médiocre qui vit au crochet de son père. Et donc ça, Heinrich Böll ne le supporte pas. Et donc il va faire un essai et ensuite il va faire ce livre qui va être vraiment un livre de colère, en effet, contre ces résidus d'une Allemagne conservatrice, d'une Allemagne réactionnaire qui, après 68, se débat en utilisant l'obsession et la terreur des gens pour le terrorisme d'extrême gauche.
Dans un documentaire de Pierre-André Boutan, Schlendorf dit « On a fait croire à 60 millions d'Allemands qu'il devait avoir peur des 6 membres du groupe Bader-Meinhof ».
Mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est Heinrich Böll a écrit sur Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof, donc c'est cette figure de la bande à Bader, qui a été aussi une grande figure féministe, puisqu'on la voyait beaucoup apparaître à la télévision dans les années 60. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ces archives où on voit cette femme, et dans ce cas-là, elle est vraiment dans la posture de Katharina Blum, qui est en général entourée de 6 ou 7 hommes qui fument le cigare, qui ont le double de son âge. Et donc Ulrike Meinhof, c'est une intellectuelle, et elle va défendre ses positions sur le féminisme, sur le marxisme, etc., de manière assez courageuse. Et puis ensuite, elle va se lancer dans le terrorisme avec la fin qu'on connaît. Et elle a été harcelée. Elle a été dans la bande à Bader et dans la Rote Fraktion. C'est certainement la femme, la figure qui a été le plus harcelée dans l'Allemagne des années 60-70. Elle est vraiment devenue l'incarnation pour la frange réactionnaire incarnée par Bild. Elle a été l'incarnation de l'Allemagne à abattre, de cette Allemagne de gauche.
C'était
de cette
Rosa Luxembourg
de gauche.
Qui revenait.
Absolument. Et ça, il fallait l'abattre. Et on voit bien que dans Katharina Blum, même si ce n'est pas une intellectuelle, même si ce n'est pas une figure médiatique, il y a quelque chose de Ulrike Meinhof.
Là où Heinrich Böll est fin et pas prenable politiquement, finalement, c'est que c'est dans les détails. Par exemple, c'est que l'ancien mari est un ouvrier. C'est-à-dire qu'il n'angélise ou il ne diabolise aucune classe en soi. Et d'ailleurs, vous l'avez suggéré tout au début, les avocats qui sont les employeurs de Katharina, dans l'ensemble, se tiennent bien. Donc il n'est pas assez bête pour être manichéen.
Oui, non, c'est pas du tout un anti-bourgeois féroce. Et lui-même, d'ailleurs, même s'il a fait partie du groupe 47, même si c'est clairement un homme de gauche, même s'il s'est engagé jusqu'à la fin de sa vie pour diverses causes, même s'il est allé en URSS, mais qu'il a dit ensuite sa déception profonde de ce qu'était l'URSS, il s'est toujours débattu avec sa vision du monde, avec sa vision de gauche. Et on voit bien que ce livre-là, qui est pourtant éminemment politique, s'attaque avant tout à un système qui est le système qu'il appelle le journal dans le livre d'ailleurs, et qui est un système médiatique certes conservateur, certes réactionnaire, certes anti-mai 68, mais qui est aussi le système des médias modernes face auxquels il nous met en garde.
C'est-à-dire que c'est un livre qui fait se dire que on a parfois l'impression qu'il n'y a qu'une différence de degré entre ce que les Allemands ont vécu, j'exagère évidemment parce que j'exclus les camps et des choses comme ça, mais ce que, après tout, n'importe quel pays vit sous une dictature et dans une démocratie, il s'en faut de peu pour que ça dérape.
C'est ce qu'il sous-entend, mais bon, c'est-à-dire que l'Allemagne des années 70, elle vit ce que tous les pays européens et occidentaux ont vécu après mai 68, c'est-à-dire cet affrontement extrêmement fort entre la frange conservatrice réactionnaire et la jeunesse de gauche habitée par des idéologies qui dérivent plus ou moins du marxisme. Sauf que évidemment, il y a le souvenir du nazisme et ce n'est sans doute pas un hasard qu'on découvre à la fin du livre qu'un des policiers a un passé nazi et que c'est d'ailleurs grâce à cela qu'il avait une arme chez lui et que Katharina Blum a pris cette arme-là et que c'est comme ça qu'elle a pu commettre son crime. Les fantômes nazis sont extrêmement présents dans ce livre. Et donc, ce qui fait que cet affrontement de société qu'ont traversé toutes les sociétés occidentales après mai 68 devient quasiment un affrontement de civilisation en Allemagne.
Oui, car c'est à ce moment-là que réellement les procès en Allemagne même commencent. Ils n'ont pas commencé après la guerre. Il y a eu Nuremberg et puis il s'est passé un très grand nombre d'années avant que les Allemands règlent ce problème-là aussi. Donc il y avait ce double conflit.
Bien sûr, le procès d'Auschwitz, c'est, je crois que c'est 66 ou 68. Et ensuite, ce texte qui a, de Peter Weiss, qui est aussi un des très grands écrivains de gauche de cette époque, qui raconte le procès d'Auschwitz et qui a bouleversé la population allemande, eh bien, on est là à la fin des années 60, au début des années 70. Donc, c'est en effet un moment où l'Allemagne fait enfin face à ce qu'elle appellera die Schuld, la faute qui...
Il avait commencé un peu avant. Si je peux me citer, j'ai parlé dans un de mes livres sur les chefs-d'œuvre de ce qui est pour moi un des combats éternels de l'humanité, qui est celui des bœufs contre les rossignols. Et bien, en faisant des recherches pour cette émission, j'ai découvert que dans un roman qui s'appelle Les Deux Sacrements, en 260, Böll opposait les buffles aux agneaux, et les premiers pour lui étant, il le dit, les puissants, les banquiers, les nazis reconvertis. Et donc, au fond, Katharina Blum est un écho de ça, décuplé par cette chose très intéressante et nouvelle au fond. Il est un des premiers à en parler de cette façon-là. Balzac a parlé de la presse avant et des torsions qu'il pouvait exister dans la presse. Mais la presse à sensation, la puissance qu'elle prend et la torsion qu'elle impose au langage. Par exemple, vous parliez de la mère de Katharina Blum qui meurt à l'hôpital. Le journaliste s'est déguisé en infirmier pour lui arracher quelques mots. On sait qu'elle lui a dit, puisque le narrateur nous le dit. Elle dit au journaliste épuisé, pourquoi fallait-il que ça se finisse comme ça? Et dans le journal, comme vous le disiez, il n'est pas nommé, ça s'appelle le journal, ça devait finir comme ça, point d'exclamation, il suffit de rien.
Absolument. Et ce qui est intéressant aussi, ça apparaît dans le livre et dans le film, c'est que moi, ce qu'on ne sait plus à qui appartiennent les méthodes policières. Est-ce que les méthodes policières appartiennent à la police, à cet état policier qu'on voit en effet avec le souvenir du nazisme, on est que 30 ans après la fin de la guerre, on voit cet état policier extrêmement puissant et présent partout, et puis cette presse qui pose des micros, qui parfois a des faux noms, qui aussi agit dans une impunité extrême.
Nous allons maintenant entendre un extrait de la musique composée par Hans-Werner Henze pour le film de Schlendorf et Trotta, L'honneur perdu de Katharina Blum, qui date donc de 1976. Oriane Jeancourt-Galignani, il y a deux choses dans le personnage de Katharina Blum et le roman de Böll qui sont sous-entendues et pas dites, c'est le mot « honneur » et la judéité. Le mot « honneur », vous l'avez dit, est un mot qui est très fort et qui est exprimé par le narrateur, mais jamais par elle. Elle n'emploie pas le mot « honneur ». Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas une héroïne, elle est presque un peu bovine. C'est une jolie fille qui subit, je suis peut-être un peu méchant en disant ça, mais elle subit plutôt jusqu'au moment où, exaspérée, elle va assassiner le journaliste. Mais elle n'a pas, on n'a pas ce sentiment de grandiloquence qui va avec le mot honneur, et on dirait que les choses lui arrivent lentement.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas un personnage, en tout cas ce n'est pas un personnage qui se pense comme héroïne, ça je suis d'accord avec vous. Après, je trouve que c'est une figure qui va toujours se tenir debout. Et en cela, pour moi, elle s'inscrit vraiment dans les grandes héroïnes tragiques, c'est-à-dire celles qui partent d'Antigone pour aller jusqu'à l'héroïne de la lettre écarlate, qui n'est pas non plus une femme qui parle, une femme qui pense, jusqu'à elle, c'est-à-dire une figure qui va être en quelque sorte traversée par sa situation et qui va se révéler par la situation, par les événements, plus grande qu'elle n'est. Et c'est ce qu'elle va faire dans son geste final. Donc, je pense qu'elle est, elle est quand même au-dessus des autres. Elle est au-dessus des autres et c'est pour ça qu'il a voulu mettre ce mot air, honneur, qui en France est important, mais en Allemagne est capital, puisque c'était le mot qui, avant la Seconde Guerre mondiale, était présent partout. Souvenons-nous que sur les universités, il y avait ces groupes où les jeunes étudiants se battaient encore à l'épée pour gagner leur honneur. Donc, l'honneur était vraiment un symbole d'aristocratie extrêmement fort.
Elle me fait penser, moi, Katharina Boulme, elle me fait penser à Carmen, parce qu'elle subit une injustice et elle se venge à la fin toute seule. Sauf que Carmen, c'est une méridionale. Et qu'est-ce qu'a, d'après vous, de spécifiquement allemand dans son rapport à la vengeance, Katharina Blum?
Ce que je trouve intéressant...
Elle est de Cologne, peut-être que ça compte, je ne sais pas.
Non, vous savez qu'elle est de Cologne, surtout parce que Cologne était à cette époque, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le centre des médias. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Et puis on sait que Heinrich Pöhl était lui-même de Cologne. Mais en effet, de Cologne, bon, on pourrait dire aussi qu'elle est de la vallée du Rhin. Donc elle est de la vallée des grandes héroïnes allemandes. Mais il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est qu'on est en plein carnaval. Ça va désarçonner beaucoup de gens et nous-mêmes, ça nous désarçonne. Elle va, pendant ces 5 jours aussi, chercher son déguisement de bédouine. Et ce jeu de métamorphose, c'est-à-dire cette vengeance qui avance masquée et qui avance comme ça sans se dire, mais je trouve que c'est quelque chose, pour le coup, d'assez germanique, vous voyez. Elle a d'un côté la grandeur sans parole d'une Gretchen, de l'héroïne de Faust, c'est-à-dire la grandeur dans le sacrifice. L'héroïne de Faust, ça va être pareil. Elle va mourir, mais elle va sauver son honneur. Et en même temps, elle a ce côté masqué, changeant, métamorphique, etc.
Lent.
Elle
est lente aussi.
Qui est quelque chose, un peu des contes de Mittel-Europa, où on est toujours un peu dans le trouble, qui est assez propre aussi à l'Allemagne.
Alors la deuxième chose qui a l'air d'exister et qui n'est pas nommée, c'est donc la judéité. Blum, c'est un nom d'origine juive.
Oui, absolument.
Et curieusement, ou pas d'ailleurs, la question n'est pas évoquée dans le roman qui a été publié dans une période où encore les Allemands étaient probablement accablés de culpabilité et ne parlaient pas de ces 6 millions de cadavres dans leur énorme placard.
Oui, il n'en parlait pas non plus parce qu'on savait qu'il y avait des anciens nazis qui étaient à certains postes dans l'administration, parmi les médecins, et voilà, et notamment chez les juges. D'ailleurs, il n'est pas inintéressant qu'il y ait des, parce qu'il y a plusieurs types de narration dans le livre, et donc il y a des passages qui sont incroyablement juridiques. Et donc, vous savez que on disait et on sait à quel point les juristes ont joué un rôle central dans le gouvernement nazi. Et je pense que Heinrich Böll, en prenant cette parole juridique, en mettant cette langue juridique et en la mêlant à la langue de la presse et à la langue de la police, montre bien que le nazisme se poursuit sous d'autres voies et sous d'autres genres.
Vous le disiez tout à l'heure, Auriane Jeancourt, à la fin, elle tue le journaliste et là, le moment frappant est, comme vous le disiez, que juste avant ça, il lui propose de coucher avec elle. Et c'est-à-dire, et là, je vais employer tout à fait volontairement un mot vulgaire, c'est-à-dire que tout au long de cette histoire, ce journaliste a cherché à baiser cette fille.
Oui.
Métaphoriquement et physiquement.
C'est ça. Et le mot est dit dans le livre. Et c'est ça qui est ignoble. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui est ignoble. C'est que c'est vrai qu'on peut aussi lire cette histoire comme un groupe d'hommes qui veut la peau d'une femme. Et donc c'est une chasse. C'est une chasse au sens de la règle du jeu de Renoir. Vous savez cette scène inouïe où il chasse le lapin.
Au sens de scène de chasse en Bavière, le film où il chasse tous un homosexuel dans un village pour l'assassiner.
Exactement. Enfin voilà, c'est la proie, c'est la bête à abattre. Et en effet, ce journaliste voulait visiblement un nouveau trophée. Ça, c'est évidemment la pulsion primale et toujours menaçante du journalisme qui demeure à notre époque.
Il est intéressant qu'il y ait beaucoup de personnages féminins centraux chez Böll. Je parlais de Leni Greuten, de Portrait de groupe avec dame tout à l'heure. Katharina Blum, femme devant un paysage fluvial. Je ne sais pas s'ils sont nombreux les écrivains allemands de cette époque-là, mais en tout cas, il a choisi de manière très très frappante de prendre, lui, pour le coup, des héroïnes. Et toujours des héroïnes salies et persécutées.
Oui, mais alors ça, vous l'avez dit, c'est un écrivain catholique. Et il va se débattre avec le catholicisme toute sa vie, et on sait que la question de la persécution, si j'ose dire, la question de la crucifixion, puisque ce livre-là est quand même une crucifixion, une passion et une crucifixion, va rester.
Est-ce que aujourd'hui, Katharina Blum serait trollée sur Twitter, elle serait poursuivie sur les chaînes du câble, parce que le phénomène de persécution a changé, cette presse à sensation existe mais n'est plus la même. Peut-être en Allemagne, le Bild, je crois quand même, j'ai vérifié la diffusion du Bild par rapport à l'époque, elle a beaucoup diminué.
Oui, vous avez raison, elle a été remplacée par les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont au moins aussi féroces que... Enfin, le Bild était quand même sacrément féroce, hein. Mais sont sans doute aussi féroces que le Bild. Mais c'est vrai que je pourrais dire qu'il y a plusieurs espaces de réponse, alors que le Bild, c'était quasiment, ouais, ils avaient une majorité inouïe, et Springer, qui était donc le groupe, hein, tenait l'Allemagne, et tenait l'Allemagne avec des idées qui demeuraient assez nauséabondes, hein, qui étaient vraiment réactionnaires. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, que deviendrait Katharina Blum? Elle se défendrait toujours avec son honneur. Elle serait, comme dans les années 70, une femme qui n'est pas de son temps. Et elle serait sans doute ridiculisée, sans doute humiliée, comme elle l'était dans les années 70. Peut-être même plus, je ne sais pas.
Ou alors, peut-être pas. Il y aurait peut-être un hashtag balance ton porc et peut-être qu'elle pourrait se défendre comme ça. Il ne faut pas penser
absolument
que tout est toujours pire.
Vous avez raison, vous avez raison. Je n'ai pas dit que c'était pire, j'ai dit que c'était pareil.
Il y a une chose que je trouverais intéressante avec ce personnage de Katharina Blum, c'est qu'on la confie à d'autres écrivains. C'est-à-dire que moi, je vois bien ce que Flaubert ou Nabokov auraient pu faire de Katharina Blum, c'est-à-dire qu'il aurait un peu plus méprisé que Beul, qui la méprise pas du tout, d'ailleurs.
Oui, Flaubert, c'est
mais
sûr.
On voit bien que Cocteau en aurait fait une espèce de Sarah Bernhardt, que Dickens, si d'ailleurs tenté qu'il aurait pu donner un rôle principal de souffrance à une femme, l'aurait arrêté avant le meurtre. Vous la confieriez à qui, vous, comme autre écrivain?
Ah ben, je pensais à Dostoïevski. Pour le coup, on plongerait dans sa psyché, puisque Dostoïevski ne supporterait pas un personnage qui ne parle pas de lui et qui ne parle pas de ce qu'il pense. Et donc, je trouve que là, on serait... Parce que le catholicisme de Beul, c'est rien à côté du christianisme de Dostoïevski.
Mais il la modérait parce qu'elle ne croit à rien. Elle est athée, enfin, ou agnostique, en tout
mais
cas.
Mais est-ce qu'elle ne croit à rien? Vous l'avez dit vous-même, on n'en sait pas grand-chose.
On n'en sait pas grand-chose. Enfin, en tout cas, elle n'exprime pas d'indignation quand elle lit dans le journal qu'elle est agnostique. Elle pourrait dire...
Non, c'est vrai, c'est vrai.
On peut présumer sans trop exagérer qu'elle l'est.
C'est vrai. Et elle enterre sa mère, mais on peut se demander aussi, et d'ailleurs Dostoïevski ferait ça très bien, si elle ne bascule pas dans la folie quand même au moment où sa mère meurt, parce que tout d'un coup elle va voir sa mère et puis ensuite elle court se déguiser dans ce carnaval. C'est merveilleux d'ailleurs cette image de carnaval qu'a pris Beul, et on voit bien qu'il la reprend à Bosch, il la reprend au grand...
À Georges Gross, aux expressionnistes.
Et
aussi.
Aux expressionnistes aussi, absolument. C'est-à-dire que cette image de société carnaval fonctionne toujours où les masques s'enlèvent et se remettent.
Auriane Jeancourt Galignani, qu'est-ce que vous a appris le personnage de Katharina Blum?
Écoutez, elle m'a appris justement qu'il était aussi grandiose que pathétique d'être quelqu'un qui n'appartient pas au monde présent. Cette femme qui a donc cet honneur qui a du sens et qui n'en a plus, cette femme qui n'est pas de son époque, et cette femme qui veut imposer son ordre du monde à un monde qui lui échappe complètement, Elle est d'un côté bouleversante et admirable, et elle est d'un autre côté pathétique et perdue dans son geste criminel. Donc, vous avez raison, peut-être qu'il faudrait la réécrire aujourd'hui avec un balance ton porc, ou en faisant d'elle peut-être une guerrière ou une femme de mots. On aimerait peut-être entendre ce qu'elle a à dire.
C'était Personnage en personne, le 20e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de la femme assise, créé par Copy dans La femme assise.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Delphine Lemaire et Clotilde Pivin. Attachée d'émission Daphné Abgral. Prise de son Manuel Couturier. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue.